les jardinières.
L'air est humide, les feuilles changent de couleur, il fait frais, pas de doute, l'automne a pris ses quartiers. Mais rien n'arrête, les jardiniers, la preuve, nous sommes là, fidèles au poste. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin.
Et merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Le mois de septembre touche déjà à sa fin et dans 87 jours, c'est Noël. Bon, on n'en est pas encore à peler la neige, mais on se prépare au froid qui arrive. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire en extérieur ces prochains jours ?
Oui, alors les extérieurs donnent passablement de travail à cette période. On a évidemment toutes les tailles qui arrivent, on a les haies qui sont en fin de taille déjà, qu'on a déjà taillées au préalable. On a toutes les vivaces qui se trouvent dans ces massifs qu'il faut nettoyer, enlever les sarments de graines pour éviter d'assécher, d'appauvrir le pied mère. On a les désherbages, bien sûr, qui sont toujours encore présents. Et puis pour ceux qui ont encore des surfaces à semer, des surfaces à regarnir au niveau des gazons, et bien c'est encore la super période pour mettre en place un semis. On a une super humidité d'automne qui est là, et puis on est garanti de réussir ces semis. Et puis pour les potagers, et bien sûr, on a encore la possibilité de planter tout ce qui est de mâche, donc la doucette, et puis les batavias, et puis on n'a pas seulement de récoltes qui sont encore à prélever et puis à encaver.
Merci beaucoup Jean-Pierre. En seconde partie d'émission, vous répondrez aux questions jardinage de nos auditeurs. Et vous avez toujours trois possibilités pour nous joindre. La première, c'est par téléphone au 0901 70 20 20. Vous aurez ainsi la chance de poser votre question en direct à notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site et joindre une photo à votre question. C'est sous l'onglet « Émission questions aux jardinières ». Ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez « Jardin », un espace suivi de votre question et de votre nom. Et vous nous l'envoyez au 939.
Après la pause musicale, nous parlerons de biotope. Comment le mettre en place chez vous et comment l'entretenir ? Les réponses dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Il paraît qu'avoir un biotope dans son jardin rendrait heureux. Mais avant de pouvoir se détendre au bord de l'eau, il faut s'armer d'une bêche, d'une brouette et surtout de beaucoup d'huile de coude. Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste. Alors avant de creuser, dites-nous quels sont les bénéfices d'avoir un biotope chez soi, à part être heureux.
Eh bien, c'est déjà d'être heureux, c'est quand même
c'est déjà
vrai.
Pas mal.
Mais oui, bien sûr. Après, c'est quand même un super petit milieu nature, écologique, qui est épanoui par une quantité de plantes et puis de faune aquatique qui s'y épanouit. Ça donne beaucoup, un grand plus, je dirais, dans un aménagement sous réserve de l'avoir implanté dans un endroit qui se présente très bien. Ça enrichit vraiment le tout. Et puis, moi, je pense que celui qui a le potentiel et puis l'espace pour, je pense que c'est magique. En tout cas, j'adore, j'en ai plein. Et puis, ça donne pas un super travail, on en parlera plus tard. Donc oui, je pense que tout un chacun peut, dans son espace, aménager un site avec un super étang, oui.
Donc justement, Jean-Pierre, créer un étang dans son jardin, c'est à la portée de tous.
Alors oui, je pense. Maintenant, ça dépend de l'espace disponible, donc l'aménagement possible. On va peut-être profiter selon des courbes du terrain, si on a des talus, si on a des trous, si on a des choses comme ça. On va peut-être en profiter pour avoir un maximum de volume. Et puis sinon, bien sûr, on va prendre la bêche et la pelle, et puis on va terrasser. Ça dépendra peut-être de la grandeur du biotope. Pour celui qui va s'amuser à en faire un, deux, trois, quatre mètres de mètres carrés, et bien sûr, il peut s'attaquer avec ce matériel-là. Et puis pour les surfaces plus grandes, et bien évidemment, ce sera une petite pelle rétro qui va intervenir pour réaliser cet aménagement, faire ce terrassement. Peut-être on va profiter aussi des remblais qu'on extraira pour faire d'autres aménagements dans la surface. Ça veut dire, si on tombe sur des surfaces de gravier, de groise, on pourra faire aussi des super aménagements de prairies fleuries sèches. Et puis les terres végétales, on pourra en profiter pour faire des nivellements de parcelles, si on a des trous, des surfaces comme ça qui sont pas très cool au niveau des pelouses. Et puis, voilà, on aménage ce biotope, oui.
Et puis Jean-Pierre, alors vous l'avez dit, hein, faut creuser suivant la taille. On va parler de l'endroit. Comment on choisit le bon endroit pour un étang ?
On cherchera à le mettre quand même dans un endroit un peu ensoleillé, pas complètement à l'ombre d'une végétation dense, parce que ce qui va arriver, si on n'a pas assez de luminosité sur le biotope, eh bien les plantes, les zélophytes et les plantes d'eau, eh bien elles ne vont pas s'épanouir. Il va s'atterrir ce biotope. On aura même une densification de feuilles et autres si c'est trop couvert au niveau de la végétation. Et puis il faut éviter de faire un compost plutôt qu'un biotope. Donc on va vraiment chercher un espace plutôt ensoleillé, bien exposé, et puis une surface plutôt plate, bien sûr. On cherchera peut-être aussi l'endroit, si l'on peut, pour aménager une conduite, pour amener de l'eau de chenaux. C'est toujours sympathique, comme ça, parce qu'on sait qu'on a de la perdition au niveau de l'eau durant les mois d'étiage. Et puis l'évaporation, les plantes d'eau consomment de l'eau. On arrive à perdre des fois 5-6 cm d'altitude d'eau par jour. Et puis c'est vrai qu'un orage qui arrive, une pluie qui arrive, de compenser cette perte naturellement par une arrivée d'eau de chenaux, c'est le bonheur.
Et puis alors, maintenant qu'on a notre endroit et qu'on sait qu'il faut creuser un trou, on fait quoi ensuite ?
Eh bien, une fois que le terrassement a été aménagé, on prendra soin de lisser le fond de la mare. On prendra soin aussi de faire en tout cas une altitude d'eau de 50 à 60 cm pour éviter les dégâts de l'hiver. C'est vrai que ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu des grands froids, mais ils peuvent revenir en retour. Et puis, si on fait un piège de glace pour tout ce qui est des animaux aquatiques, ce serait dommage. Et puis, une fois qu'on a lissé ce fond pour éviter les grosses roches ou les angles vifs des pierres que l'on peut trouver, eh bien, on prendra soin de lui mettre un feutre, une protection en première couche. Là, on travaille avec des feutres assez épais qui permettent aussi de se coller avec un feutre spécial que les professionnels ils ont. Pour le privé qui n'aura pas le feutre, alors il prendra soin de vraiment mettre un feutre de protection qui ne puisse pas se relever, qui soit vraiment plat au niveau de la surface du biotope. Dedans, on mettra une bâche. Alors encore une fois, là, vous pouvez trouver des bâches dans les grandes surfaces. Vous pouvez aussi trouver des bâches chez des professionnels. Vous pouvez aussi avoir des professionnels qui viennent vous coller les bâches dans le biotope. C'est la manière dans laquelle on travaille le plus, nous, parce qu'on n'aime pas avoir des plis conséquents dans les bâches étanches. Ça crée un vieillissement naturel trop rapide et puis on a des risques de perdre l'étanchéité du biotope. Donc nous, quand on a des grands biotopes avec des angles et puis qu'on a ces plis, on les coupe et puis on les recolle pour justement parer à ce phénomène. Et puis, de nouveau, par-dessus la bâche étanche, on reviendra avec un deuxième feutre de protection qui, justement, évitera de perforer cette bâche avec du matériel et autres qu'on mettra par-dedans derrière. On prendra aussi soin que ce feutre à l'intérieur du biotope ne remonte pas trop sur les berges parce qu'il y a un phénomène de feutrage qui fait que ce feutre peut nous vider le biotope en partie. Ça fait office de buvard et puis à partir de là, on perd trop d'eau. Donc on gardera 10-15 cm en dessous du niveau supérieur avec ce feutre de protection. Et puis, par dedans, on met du matériel pour lester ce matériel, ces bâches, et puis avoir un milieu nature sans avoir ces matières synthétiques apparentes. Et puis là, nous, on préfère travailler de nouveau avec un gravier calcaire de préférence. Ici, dans la vallée de Démont, vous en avez des quantités. C'est ce gravier rond qui se trouve en sous-sol. Pour nous, en Ajoie, on vient le prendre dans la vallée parce que prendre du matériel en carrière, c'est souvent du matériel qui a été explosé, cassé, et puis, dans le milieu nature, un biotope, il est plutôt avec du galet qu'avec une chaille ou du gravier cassé. Et puis ce matériel permettra justement cette protection, et puis aux plantes de s'épanouir, et puis à la microfaune de prendre pied, de se développer dedans.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, nous parlons étang et biotope. Il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué en détail comment installer, creuser le trou, mettre les feutres, les bâches et tout ça. On va parler de l'eau qu'il faut mettre dans cet étang. Alors, vous avez dit qu'on peut mettre l'eau de pluie qui vient des chenaux. Mais est-ce qu'on peut aussi utiliser l'eau du réseau pour remplir l'étang ?
Oui, alors bien sûr qu'on peut l'utiliser. À l'évidence, en tout cas, quand on le crée, ce biotope, on le remplit avec cette eau de réseau. Après, dans le temps, si on arrive avec une chenot, c'est nettement plus judicieux. Et puis, on évite d'amener trop de calcaire et puis de chlore. Alors, ça pose pas vraiment problème non plus, le chlore dans un biotope. Mais sur le principe, on préfère vraiment une arrivée d'eau naturelle.
Et puis, pour oxygéner l'eau, et pour les futurs habitants aussi, parce qu'il y en aura, il faut mettre des plantes. Que conseillez-vous ?
Alors là, il y a une ribambelle de plantes qui existent dans les hélophytes et les hydrophytes. Je rappelle, les hélophytes, c'est les plantes qui ont le pied dans l'eau et puis qui s'épanouissent à l'extérieur. Les hydrophytes, c'est celles qui se trouvent sous l'eau et puis qui s'épanouissent à l'intérieur du biotope. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces plantes, bien sûr, elles oxygènent et puis elles enrichissent vraiment la qualité écologique du biotope. Pour celui qui souhaite garder une eau claire dans ce biotope, alors c'est la mauvaise idée d'y amener des poissons. Le poisson, il touille, il remue, il est toujours dans la vase et puis il vous trouble cette eau, et puis si vous mettez pas de poisson du tout, alors vous avez une qualité d'eau qui est magique avec tous les animaux qui s'y présentent, que l'on voit vraiment que c'est magique. Voilà, oui.
Et puis justement, de ces petits animaux, on en parlera dans quelques minutes, parce que normalement, juste comme ça, Jean-Pierre, ils viennent tout seuls dans nos étangs, c'est ça?
Alors oui, bien sûr, même le poisson, hein, ça peut arriver qu'on ait des poissons qui arrivent, que les œufs étaient collés aux pattes des volatiles qui viennent s'y plonger, et puis tout à coup on a 2-3 poissons qui arrivent dans le biotope, ça peut arriver.
Les jardinières.
En compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, on s'intéresse au biotope. Il y a quelques minutes, vous nous avez expliqué comment le construire et quelles plantes y mettre. Parlons maintenant de la faune que va abriter ce biotope. Alors, grenouilles, tritons ou encore libellules. Comment faire pour que ces animaux viennent habiter dans notre nouvel étang, Jean-Pierre ?
Eh bien, il faut juste réaliser un petit coin de paradis avec un biotope chez soi, et puis toute cette petite faune, cette microfaune va arriver naturellement. Ce qu'il faut juste savoir dans la microfaune, dans tous ces batraciens qu'on souhaite obtenir et voir, c'est que si on lui met des poissons dans le biotope, alors vous aurez carrément le sens contraire du système. Le poisson, il va manger les œufs, il va manger les larves qui vont se développer, et puis vous aurez ce problème d'eau qui sera souillée, et puis vous verrez jamais le fond de votre biotope. Et puis si vous mettez pas du tout de poisson, eh bien vous aurez vraiment un épanouissement magique de toute cette microfaune régionale qui va arriver chez vous.
Et puis maintenant que l'étang est en place, de quel entretien est-ce qu'il a besoin, ce biotope, par exemple, à cette période de l'année ?
Alors à cette période, on taille encore un peu les hélophytes qui se trouvent sur le pourtour, on essaie de les contenir. La mauvaise idée, ce serait d'aller mettre de la massette dans un biotope pour celui qui en veut faire un, parce que la massette, elle est très envahissante. Et puis à un moment donné, s'il y en a à cette période, on devra presque vider de moitié le biotope pour les arracher.
Et la massette, c'est donc une plante ?
Oui, c'est une plante qui fait ses petits bouchons noirs, on la voit volontiers, elle fait 2 mètres de haut, elle fait ses sections comme une pive au sommet de sa tige noire, et puis ça se sème très facilement, puis c'est très très envahissant dans le biotope. Alors un grand biotope, c'est pas un problème, on les aime bien de temps en temps. Par contre, dans un petit biotope, le fait d'avoir une altitude d'eau qui est plutôt de 50-60 cm, elle arrive à s'épanouir dans ces altitudes-là, et puis à un moment donné, vous avez votre biotope qui est complètement anéanti par la masse. Donc celle-là, il faut en tout cas pas l'implanter. Mais pour le reste, dans les entretiens, eh bien, c'est ce que j'ai dit, tailler, nettoyer les hélophytes qui sont au pourtour du biotope et puis qui pourraient se densifier un peu trop. Les hydrophytes qui se trouvent à l'intérieur du biotope, on n'a pas besoin de les déranger parce qu'elles vont se nanifier d'elles-mêmes durant l'hiver et repartir au printemps. Et puis je dirais, tous les 10 ans, on vide une fois ce biotope pour enlever la masse de vase qui se trouve dans le fond du biotope. Et puis ça, on le fera justement à une période du mois d'août-septembre, parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus de microfaune en ponte, et puis on n'aura pas trop de dégâts sur cette microfaune. Et puis il faut quand même de temps en temps enlever cette vase et ces feuilles qui peuvent s'amonceler dans le fond du biotope.
Jean-Pierre, peut-être une question pour l'hiver qui arrive, les biotopes, ben, certains vont geler. Est-ce qu'on brise la glace ou on la laisse telle qu'elle ?
Non, on brise pas la glace, et puis on met pas non plus de protection, de sécurité, de bois par exemple sur la partie supérieure pour éviter du dégât de gel, parce que de toute façon le biotope, c'est une membrane qui est quand même flexible sur les tours, et puis si on avait une grosse masse de glace qui devait venir tendre les bâches extérieures, eh bien on aurait quand même pas de dégâts, parce que la bâche, déjà on a ce cordon d'hélophyte sur le pourtour qui va atténuer ce problème. Non, et puis la glace, je pense c'est mieux de la laisser intacte, ça protège aussi du froid, la masse en dessous de cette glace où justement on a tous ces animaux qui s'épanouissent et qui hibernent.
Et puis un mot peut-être aussi sur la loi. Est-ce que tout propriétaire de jardin peut aménager un étang chez lui où il y a des règles assez strictes à suivre ?
Alors je pense que pour un petit biotope, on n'a pas trop de soucis à se faire. Par contre, selon la grandeur du biotope, il est plus judicieux de se renseigner auprès de la commune ou du canton pour ne pas avoir de problème et devoir faire un permis en rétroactif. Mais quand bien même, en général, on n'a jamais trop de problèmes pour ce genre de milieu nature parce que tout le monde est avare et tout le monde en souhaite un max.
Jean-Pierre, on va terminer sur ces biotopes étangs. Peut-être un dernier conseil pour les personnes qui aimeraient se lancer dans leur réalisation ?
Bien analyser la situation du pourtour de tout un chacun et puis mettre un maximum de déco pour qu'il soit super épanoui. Alors ça peut être aussi avec une souche de bois mort, ça peut être un murgier, un tas de pierres, ça peut être aussi un bras de rivière sec supérieur par rapport à l'eau. Donc c'est un bras qui viendra jamais d'eau dedans et puis qui sera épanoui. Moi je pense qu'il y a de quoi faire une super décoration avec un petit budget pour un super biotope.
7h, 8h, les jardinières.
7h43 chez les jardinières, il est temps de répondre aux questions. Et la première question, c'est par téléphone, Brian.
Et oui, c'est Nicole qui nous a appelé et qui va nous parler de ses cornouillers. Bonjour Nicole. Nicole, est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis là. Oui.
Parfait, vous pouvez poser votre question.
Oui, bonjour. Nous avons deux cornouillers mâles dans le jardin. Et puis, ils commencent vraiment à devenir très très grands. Ils empiètent un petit peu chez le voisin. Bon, qui se plaint pas trop parce qu'il bénéficie de la gelée quand je prends les baies. Mais est-ce que c'est conseillé de le tailler ? Parce qu'il fait 5-6 mètres de haut peut-être maintenant déjà.
Oui, bonjour Nicole. Oui, le cornus que vous avez, c'est le cornus mince. Et puis, il donne la corme, c'est le fruit que l'on récolte pour faire la gelée. Évidemment qu'il supporte très bien les tailles. Vous pouvez y aller à la scie. Alors, on fait plutôt le principe d'une taille d'un arbre fruitier. On essaie de garder quand même des sarments de toute grandeur sur le végétal. Mais en volume, vous pouvez vraiment le diminuer. Il va vraiment bien réagir à la taille. Enlever peut-être assez, parce que de toute façon, il va redémarrer très fort. Puis, pour éviter de tailler tous les 2-3 ans et puis perdre de la récolte parce qu'on sait que la récolte elle se produit sur le sarment de 2 ans peut-être 3, et bien mieux vaut revenir assez en négatif par rapport à la plante actuelle pour la laisser s'épanouir de nouveau derrière sur 7-8 ans et puis comme ça vous aurez un maximum de récolte de corme.
D'accord, ok. Et puis je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup de ces arbres. Vous ne savez même pas quand c'est le voisin qui l'a planté, qu'on pourrait récolter les baies, mais ça donne de la gelée, mais magnifique. C'est un petit goût spécial pour ceux qui ne connaissent pas, mais je le recommande vraiment
et
dans
bien,
le jardin.
C'est Nicole, magnifique. Le message est passé. Si vous en avez des pots de trop, vous passez à la radio, vous dites c'est pour les jardinières, comme ça on passera le message plus loin. Merci pour votre question.
Avec plaisir, merci à vous aussi. Et bonne journée,
et
bon
bonne
week-end.
Journée.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Jean-Pierre,
au revoir.
On va enchaîner avec cette question qui nous vient de Valérie de Saint-Bray, qui nous dit « Il y a 2 ans, j'ai fait un semis de graines ramenées du Sénégal, un flamboyant. Il est actuellement en serre et il devient grand. Est-ce possible de le mettre en pleine terre, à 1000 mètres d'altitude ? Ou sinon, quelle altitude idéale ? Comment faire pour l'hiverner hors serre ? » Alors déjà, on a reçu cette photo d'illustration, comme on dit, d'un de ces arbres à flamboyant, très beau, avec beaucoup de fleurs rouges. Alors, est-ce qu'on peut mettre cet arbre en pleine terre à 1000 mètres, Jean-Pierre ?
Alors, pour Valérie, je ne pense pas qu'elle arrivera à implanter cette plante dans le milieu nature de chez nous. C'est vrai que c'est une plante qui est magique, mais on a un climat hivernal beaucoup trop rude, et puis même trop d'humidité pour qu'elle arrive à s'épanouir. Et puis sinon, juste peut-être une petite précaution, pour cette plante-là qui va en tout cas pas pouvoir se développer chez nous puis coloniser nos espaces nature. Vous savez que simplement le palmier du Tessin est interdit chez nous, mais non, parce qu'il arrive à se semer de lui-même et puis il peut envahir nos zones. Donc, ramener de la semence de l'extérieur, ça peut être dangereux. C'est peut-être mieux de se renseigner auprès de professionnels ou même sur la liste des plantes invasives de la Confédération pour être tranquille de ne pas créer des problèmes futurs.
Merci Jean-Pierre. Donc, attention hein, toujours aux graines que vous ramenez de vacances. Brian, je crois que vous avez une autre question par téléphone. Si on retrouve Brian, sinon on va...
Oui, alors je suis là, Mylène. Parfait. Nous avons une auditrice qui nous appelle aussi et qui va nous parler, elle, d'artichaut. Bonjour. Est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Vous pouvez poser votre question à notre spécialiste.
Merci. Bonjour, j'aimerais juste savoir comment hiberner un plant d'artichaut. Parce que chaque année, j'en achète et puis ils crevent. Et puis il paraît qu'on peut les garder pour l'hiver, pour l'année d'après.
Oui, bonjour madame. C'est vrai que l'artichaut, il est tentant de cultiver chez nous. Oui, merci. Il est tentant de cultiver chez nous, mais évidemment, le dégât du froid ne le laisse pas passer l'hiver chez nous. Soit vous le mettez vraiment en pleine terre et puis le super protégez avec des feuilles, de la paille, de la jute, enfin du matériel pour le protéger des grands froids. Et puis sinon, s'il est en pot, eh bien, c'est une obligation de le mettre dans un endroit où il ne viendra pas à moins 2, moins 3, parce que la prise du froid sur le pot est beaucoup plus conséquente que la prise du froid d'une plante qui est implantée dans l'espace terre, et puis c'est l'un ou l'autre. En pleine terre, super protection par-dessus, et puis si c'est en pot, c'est vraiment dans un jardin d'hiver, voilà.
Il est en pleine terre, alors
en pleine terre, il vous faut vraiment le protéger avec soit un de ces paniers de compost en grillage, et puis vous remplissez de feuilles mortes dedans pour faire vraiment cette zone thermique, mais sinon, il ne va pas passer, effectivement.
D'accord, je vous remercie infiniment.
Merci
à
vous.
Bonne journée.
Bonne journée, merci.
On va prendre encore une question, Jean-Pierre, avant le retour de la musique. On a reçu une photo de Alice de Corneau, des photos d'arbres qui sont plantés dans son village et qui fleurissent maintenant. Elle aimerait savoir de quel arbre il s'agit. Alors Jean-Pierre, déjà rapidement peut-être décrire cette photo.
Oui, alors c'est des plantes qui ont été mises sur une banquette. C'est un arbuste avec une multitude d'axes et de branches qui montent sur une hauteur de 2 mètres 53 mètres. Puis effectivement, l'épanouissement de la fleur, elle est à cette période. Il y a plusieurs couleurs de fleurs sur cet arbuste. En fait, c'est un lilas des Indes. C'est une plante méditerranéenne. On peut admettre que sur Corneau, avec le climat du lac, des lacs, elle arrive à passer l'hiver. Pas très sûr que chez nous, en tout cas dans les franches montagnes, c'est évident qu'il ne sert à rien de la planter. Pour entre, pas sûr, de l'aimant encore moins, avec les zones de brouillard qu'il y a et puis le froid stagnant, ça ne va pas passer. Mais sur Corneau, effectivement, c'est une super plante, le lilas des Indes. Mais à déconseiller, je pense, sur le Jura, sur la partie neuchâteloise, où on a un climat qui est plus clément par rapport à ce standard des lacs.
Les jardinières.
7h51 chez les jardinières, Jean-Pierre Ribaud avec nous depuis 8h et vous répondez, depuis 7h pardon, et vous répondez aux questions de nos auditeurs, des questions jardinage. On a reçu une question de Gabriel de Moutier qui nous a envoyé une photo de sa plante qui se trouve en ce moment dehors et elle se posait la question qu'est-ce qu'elle doit faire pendant l'hiver avec cette plante. À l'intérieur, elle n'a malheureusement pas la place. Elle nous signale aussi que ce n'est pas l'original, que ce sont des pousses qu'elle a reçues. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire pour... C'est un papyrus, si je ne me trompe pas.
Exact. Bonjour Gabriel. Effectivement, c'est un papyrus. Et puis chez nous, sous nos latitudes, il ne va pas passer d'hiver si on a un moins 3, moins 4. Donc, c'est presque une obligation de le mettre dans un endroit où il ne viendra pas trop de froid. Peut-être si, au moins dans un fond de garage, ou je ne sais pas, elle peut quand même hiberner en partie. Vous pouvez couper le feuillage et puis la laisser avec une humidité constante quand même, évidemment, pour l'hiver. Et puis tout de suite, début mars, la ressortir, elle peut passer d'hiver. Après, vous parlez que ce n'est pas l'original, mais en tout des cas, que ce soit un rejet de souche, une division de touffe, du papyrus, du pied mère, ça reste de toute façon du papyrus et puis il n'y a pas d'incident par rapport à ça. Voilà.
Merci Jean-Pierre. On a encore vite le temps de prendre un dernier téléphone avec vous, Brian.
Exactement, c'est Catherine de Malray qui nous appelle. Elle a une question sur deux de ces arbres. Catherine, est-ce que vous êtes là? Catherine, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, vous pouvez poser votre question.
Oui, bonjour.
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 Bonjour. J'ai une question. J'ai un figuier et un pêcher dans des pots et j'aimerais les mettre en pleine terre. Est-ce que c'est possible et à quelle période?
Oui, alors effectivement, c'est faisable. Et puis, c'est la super période maintenant. En fait, il n'y a pas vraiment de période pour une plantation d'une plante qui se trouve dans un pot pour la mettre dans un milieu nature dans la pleine terre. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment chercher un endroit idéal pour ces deux plantes, autant le pêcher que le figuier. Ces deux plantes qui supportent vraiment, qui demandent, c'est même pas qu'ils le supportent, ils demandent vraiment de la température. Et puis, si vous pouvez les mettre en palissade contre un mur ou dans un angle de mur, mur ou avec une protection de mur vraiment côté plein sud, alors ils seront épanouis vraiment. Vous n'aurez jamais de problème avec ce figuier. Peut-être que au niveau de la mise à fruit, ce sera un peu plus délicat parce qu'il a une période des fois un peu longue et puis malgré vous êtes un peu haut. Par contre, pour le pêcher, attendez-vous à avoir pas simplement d'attaque de cloques sur le feuillage et puis il faudra la combattre avec un fongicide. C'est un produit pour justement combattre la cloque. Ce sera délicat le pêcher. Je peux déjà vous prévenir, mais tentez et puis vous découvrirez. Et puis avec une lutte justement de fongicides, en fait, quand vous aurez ces problèmes en temps voulu, vous pouvez toujours téléphoner et puis vous renseigner pour combattre ce phénomène. Voilà.
Merci. Oui, excuse-moi.
Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir appelé. J'espère que vous repartez pleine de savoir.
Oui, merci beaucoup.
Et bientôt de figues. Au revoir, merci.
Et puis merci beaucoup Jean-Pierre, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. Vous nous avez accompagnés durant ce début de matinée. Bon week-end et à très bientôt chez les jardinières.
Eh bien merci à vous, et puis belle fête aux Neuchâtelois, belle fête pour les ajoulots sur la Damascine et puis ceux qui viendront nous rendre visite, et puis bon week-end à tout le monde.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Samedi prochain, c'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy qui sera en notre compagnie et pour parler jardin et répondre à vos questions comme d'habitude. N'attendez pas samedi prochain pour poser vos questions, vous pouvez remplir le formulaire sur notre site et joindre une photo quand vous voulez, ou alors nous envoyer un SMS, vous tapez jardin un espace suivi de votre question, de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939. Voilà. Et puis pour réécouter tous les conseils de Jean-Pierre Ribaud sur les biotopes, ça se passe en cours de matinée sur notre site. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. C'était à nouveau un plaisir de vous accompagner ce matin pour les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.